R avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette discussion hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur la situation politique de la France avec le secours de Bruno Cotrès. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Bruno Cotrès qui est chercheur au CEVIPOF, qui est le Centre d'études de la vie politique française, et chercheur à Sciences Po donc, et enseignant aussi à Sciences Po. Merci donc d'être avec nous, Bruno. Nous allons évoquer cette situation politique parce que beaucoup d'événements se succèdent, se heurtent, se cognent. Il y a évidemment la situation internationale et une première interrogation, Bruno, d'ailleurs, sur cette situation internationale, mais nous y reviendrons. C'est la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire récente, qu'une situation internationale tendue qui appelle au fond d'habitude un réflexe de rapprochement d'avec le chef de l'État ne se produit pas. C'est-à-dire que la cote de popularité, le jugement des Français sur le président de la République ne bouge pas, alors que d'habitude il y a un effet quand même qui est créé par ces tensions internationales au bénéfice de l'exécutif. Et puis d'autre part, il y a la surprise du chef, c'est-à-dire le déficit des finances publiques plus élevé que prévu, parce que la croissance qui était anticipée n'a pas été au rendez-vous. Et donc là aussi, on entre dans une discussion très compliquée sur comment rectifier ce déficit avec les habituels affrontements entre droite et gauche, mais aussi surtout à l'intérieur de la majorité. Et enfin, il y a les problèmes politiques aigus qui sont d'abord la perspective des élections européennes qui vont être importantes, plus importantes peut-être que d'ordinaire pour des élections européennes, et l'attitude d'une partie de l'opposition, notamment les LR, qui semblent se diriger inexorablement vers une motion de censure qu'ils brûlent de pouvoir voter. Donc voilà un petit peu quels sont les thèmes que nous allons aborder. Bruno, donc juste un mot d'abord sur cette situation internationale qui est pesante, qui est source d'angoisse, et pourtant il n'y a pas de réflexe de solidarité autour du chef de l'État, Bruno Cotrès.
Oui, vous savez, c'est au début des années 1970 qu'un célèbre politologue américain avait théorisé ce qu'il appelait le ralliement derrière le drapeau. Quand il y a des grandes crises internationales, il disait que pour que ce ralliement ait lieu, il faut vraiment que l'opinion ait le sentiment que la sécurité nationale est menacée. Il disait d'ailleurs que c'était de courte durée, ce ralliement derrière le drapeau. Et là, effectivement, on n'a pas du tout cet effet de ralliement derrière le chef de l'État que lui a espéré tellement, parce qu'il lui est très difficile de convaincre que notre sécurité nationale est directement menacée. L'exécutif a multiplié les déclarations sur ce sujet en disant que si la Russie gagnait en Ukraine, les vies quotidiennes des Françaises et des Français seraient directement touchées, mais on voit qu'il n'arrive pas pour le moment à convaincre. Il faut dire que le chef de l'État part avec un lourd handicap, qui est une impopularité forte, assez structurelle depuis au moins le début de son second mandat et sans doute même avant. Donc il n'est pas arrivé à inverser la courbe de ce point de vue-là. Il lui reste moins de 80 jours avant les élections européennes pour convaincre l'opinion du contraire.
Jean-Claude Casanova, donc on n'est pas convaincu de la dangerosité de la situation finalement.
La popularité, il est plus populaire que n'était à la fin de leur mandat Sarkozy et Hollande. Donc c'est une impopularité dans laquelle il y a ce qui lui est spécifique, c'est que il y a une intensité plus forte d'austérité qu'il n'y avait à l'égard de Sarkozy ou de Hollande. Alors, le fait que la guerre en Ukraine ne touche pas directement les Français vient du fait de l'éloignement. Ils ne se sentent pas directement concernés. Disons que c'est la partie la plus qualifiée de la France. Le peuple français, abstraitement, ça n'existe pas. Les Français sont composés de catégories diverses en niveau d'instruction, en niveau de compréhension du monde extérieur, etc. La partie de la France qui vit internationalement comprend la gravité de la situation. La partie de la France qui vit dans l'Hexagone, sans autre préoccupation que les préoccupations hexagonales, ne le vit pas. Et donc, de ce fait, le côté dramatique pour l'Europe n'est pas perçu, ne semble pas jouer un rôle dans ces élections européennes.
Est-ce que ces élections européennes, précisément, Bruno Cotrès, ne peuvent pas justement remettre l'accent sur les dangers que font courir à l'Europe la situation militaire entre la Russie et l'Ukraine, Bruno Cotes.
C'est tout le pari d'Emmanuel Macron, c'est tout son pari, c'est effectivement, il a maintenant fait en sorte de concentrer les élections européennes et la campagne des élections européennes sur cette question, avec potentiellement un effet inattendu. Ça augmente le niveau d'anxiété dans la population, qui est déjà très élevée. Toutes nos enquêtes montrent que la santé mentale du pays n'est pas bonne, que le pessimisme l'emporte très largement. Donc, élever le niveau d'anxiété, c'est potentiellement rendre service aux adversaires d'Emmanuel Macron, notamment le Rassemblement National, qui capitalise beaucoup sur la question de l'anxiété, l'angoisse du lendemain. Et puis, un autre effet potentiellement inattendu, c'est que du coup, une campagne sur d'autres thématiques européennes qui pourraient être des points forts d'Emmanuel Macron, qui est, au fond, donner du sens à l'action publique européenne vis-à-vis du climat, par exemple, rendre aussi plus concret l'action publique européenne aux yeux des Françaises et Français. Bah, du coup, tout ceci est un peu mis sous le boisseau pour le moment, parce que le chef de l'État a tellement dramatisé que ça a mis un peu sous l'entonnoir le reste de la campagne pour le moment.
Si bien qu'on a l'impression en même temps qu'à chaque fois que se produit un événement quelconque, dans quelque domaine que ce soit d'ailleurs, le chorus de l'ensemble des médias consiste à dire « ça rend service à Marine Le Pen ». Et donc, au point d'ailleurs qu'on a parfois l'impression que ce sont les thématiques du Rassemblement National qui dominent l'ensemble de la vie politique française et que, sans paraphraser qui que ce soit, je dirais c'est devenu la nouvelle pensée unique. Donc, Bruno Cotes.
Oui, un curieux paradoxe qui fait que l'un des acteurs politiques qui a le plus voulu contester le système se retrouve au cœur du système aujourd'hui. Le Rassemblement National aujourd'hui, c'est un acteur clé de notre vie politique. Lorsqu'on réalise des enquêtes d'opinion sur la sympathie partisane aujourd'hui, c'est le mouvement politique qui attire le plus la sympathie partisane, de loin. Des enquêtes ont été faites d'intention de vote. Si des élections législatives anticipées avaient lieu, c'est le Rassemblement National qui sortirait en tête en termes de voix. C'est autre chose en termes de sièges. Donc effectivement, c'est un acteur qui est devenu le centre, d'une certaine manière, du débat politique, avec toute cette attention dont vous parliez, Jean-Marie Colombani, de toute cette attention médiatique qui progressivement voit l'élection présidentielle de 2027 s'approcher de plus en plus, avec une sorte de marche qui apparaît pour le moment presque inéluctable de Marine Le Pen.
Jean-Claude.
Oui. Je crois que si on regarde le phénomène d'un point de vue historique, je crois qu'on le comprend mieux. Si vous raisonnez sur le XXe siècle, ce qui caractérise le XXe siècle, c'est ce qu'un grand, le fondateur de la société électorale, Siegfried, avait appelé le sinistrisme. C'est-à-dire que le parti, le gouvernement était perpétuellement débordé sur sa gauche. Les héritiers de Gambetta ont été débordés par les radicaux ont été débordés par les socialistes, et après la révolution bolchevique, les socialistes ont été débordés par les communistes. Il faut se souvenir quand même qu'en France, de 1945, pratiquement jusqu'aux années 60, c'est-à-dire à la pire époque du stalinisme, l'électorat communiste dépassait le quart de l'électorat français. Donc, quand on s'indigne de l'existence du Rassemblement National, si j'ose dire, il y a eu pire, quoi, historiquement, puisque ce que le général de Gaulle appelait le parti de l'étranger représentait entre 1 sur 4 ou 1 sur 3 des Français. Alors, aujourd'hui, nous sommes exactement dans le phénomène inverse, c'est-à-dire que le mouvement politique, dans toute l'Europe, et même en partie aux États-Unis, il y a une radicalisation du Parti républicain aux États-Unis, les États-Unis restent encore dans une structure dualiste, l'Angleterre est sortie de la structure dualiste. Toutes les crises anglaises depuis 20 ans sont liées à l'apparition à la droite du Parti conservateur, d'un parti plus à droite que lui, et toute l'Europe connaît des déplacements vers la droite, ce qui a un effet sur le centre gouverne toujours. Quand on regarde la Troisième République, c'est ce qu'on appelait la concentration. C'est-à-dire qu'il y avait des élections qui étaient tantôt à droite, tantôt à gauche, et par un système de crise parlementaire, on revenait au centre. Si vous prenez les élections de Front Populaire, 36, c'est à gauche, et puis 38, on est revenu au centre, on a un gouvernement de concentration, les radicaux gouvernent avec une partie du centre droit. Et Donc, le problème du centre aujourd'hui, et c'est le problème de Macron, c'est qu'il est déporté sur sa droite. C'est-à-dire que il est dans une position particulièrement inconfortable en France, où il n'a pas de majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'il est en cohabitation avec un parlement dans lequel il n'a pas de majorité absolue. D'où la difficulté du problème. Alors, si on prend la vision pessimiste que, cher Jean-Marie, vous semblez avoir, ça amène à une crise. Donc, à la censure et à la dissolution. Et ça, je ne sais pas ce que donneront... Enfin, alors, ça donnera des élections encore plus à droite que les précédentes.
La dissolution n'étant pas obligatoire, le président de la République peut perdre...
Il peut changer de gouvernement.
Il peut changer de gouvernement et il peut d'ailleurs, du coup, changer la composition politique du gouvernement.
Inventer
une coalition. Mais
on peut appeler Ciotti comme premier ministre.
Voilà, on n'en est pas encore là, mais on sent bien que la tentation de cette dissolution existe maintenant. Justement, Bruno Cotterêts, à la faveur de ce débat qui est né de la découverte ou du surgissement d'un déficit imprévu lié au fait que la croissance n'était pas tout à fait au rendez-vous. Donc là, on replonge dans c'est presque une sorte de marche arrière. On replonge dans des années où il y avait déjà ce débat. Est-ce qu'il faut davantage baisser les dépenses? Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? On est là dans un scénario à la fois très classique, mais qui est un peu désastreux pour le gouvernement actuel, Bruno Cotterêts.
Oui, qui est une très mauvaise nouvelle, effectivement, non seulement pour le pays, mais pour le gouvernement. 154 milliards d'euros de déficit public en 2023, 5,5% du PIB, l'une des pires contre-performances de la zone euro. Il y a d'autres pays qui s'en sortent bien, le Portugal, les Pays-Bas, par exemple. Donc une très mauvaise nouvelle.
Qui n'a pas échappé à la montée de l'extrême droite, voilà. Malgré ce bon résultat
bien
économique.
Bien sûr, mais une très mauvaise nouvelle. Et c'est vrai que du point de vue de l'opposition, on se rappelle que Bruno Retailleau a dit, mais alors c'est ça, le Mozart de l'économie, eh bien il va nous laisser quelque chose qui est probablement une situation désastreuse au plan de l'ensemble de la dette nationale, de la dette publique, qui passe au-dessus de 3000 milliards d'euros aujourd'hui. Donc une très mauvaise nouvelle pour l'exécutif, qui le met un peu au pied du mur de nous dire exactement où est ce problème. Emmanuel Macron a été élu en 2017 sur l'idée qu'une nouvelle économie allait être portée par un exécutif qui allait rendre l'économie plus fluide, plus attractive. On allait libérer un potentiel d'énergie dans le pays. Et on voit qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes dont on a le sentiment qu'on n'arrive pas à sortir. Et ça met une pression considérable sur l'exécutif parce que, à droite, on est en train aussi de se réapproprier un thème très important qui est celui du déficit public, du trop d'impôts, du trop de dépenses. Et Emmanuel Macron est véritablement pris en porte-à-faux sur cette question. Il maintient son cap. Pas d'augmentation des impôts, nous a dit le Premier ministre à nouveau. On verra.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Bruno Cotterêts, qui enseigne à Sciences Po, et nous évoquons la situation politique du pays. En parlant justement le plus récemment du déficit et de la façon dont le gouvernement peut trouver les moyens de réduire ce déficit. En même temps, on sait bien, Bruno Cotterêts, que la solution dans ces situations-là, c'est toujours la croissance qu'il faut rechercher. Et au fond, si on regarde l'ensemble du problème français, c'est quand même un problème de décrochage de l'ensemble de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, puisque les États-Unis ont considérablement augmenté leur richesse, alors que l'Europe était plutôt stagnante. Donc, c'est ça aussi qui peut handicaper les partisans du président de la République aux élections européennes, Bruno Cotterêts.
Oui, bien sûr, parce que l'exécutif a beau communiquer sur l'idée que c'est le travail, l'activité qui sont le meilleur antidote des déficits, rentrées de fiscales, cotisations sociales qui vont avec le travail. Il a pris une optique de dire que on allait rechercher à remettre au travail en limitant la durée d'indemnisation du chômage ou en rendant plus difficile l'accès à l'indemnisation pour fait du chômage. Et donc ça, c'est un signal qui va être interprété de manière très négative par une partie de l'opinion, notamment le centre-gauche, qui avait cru dans Emmanuel Macron et qui, après la réforme des retraites, après le projet de loi sur l'immigration, dit finalement Emmanuel Macron a vraiment choisi son camp. Il a maintenant basculé du côté du centre droit. Et donc, ça n'est pas la décision, sans doute, la communication la plus optimale à quelques semaines d'une élection, de dire, eh bien voilà, on va rogner sur les allocations pour les chômeurs et expliquer que c'est le fait que les gens ne travaillent pas assez en France qui est notre principal problème économique et budgétaire. Vous savez, dans le cadre d'une enquête que nous réalisons au CVPOF, une enquête sur la confiance politique, on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de leur vie au travail, mais les gens sont globalement très positif sur la valeur travail qui est très élevée en France, sur l'idée que c'est à travers le travail qu'on trouve son identité, c'est très important. Par contre, ils trouvent qu'ils ne sont pas payés de retour en termes de progression professionnelle, en termes de rémunération, et donc le Premier ministre devrait aussi parler de ces questions.
Jean-Claude, vous pensez que le gouvernement a raison de mettre l'accent sur le travail, sur la valeur travail, et aussi sur le développement, aussi sur les classes moyennes, qui est le nouveau discours Gabriel Attal veut attacher son nom.
Si les deux partis de gouvernement, le Parti Socialiste et le Parti Républicain, sont en mauvaise situation, c'est qu'ils avaient l'un et l'autre échoué en termes de politique économique. Le Parti Socialiste n'avait pas compris la compétitivité, et à l'exception de Hollande, qui a découvert que l'offre existait à côté de la demande, mais enfin c'est quand même une découverte tardive, découvrir que l'offre existe et qu'elle a autant d'importance que la demande, Chirac avait commis une énorme erreur de politique économique en 2002, en ne comprenant pas que le problème central de la France était l'absence de compétitivité, la désindustrialisation et l'absence de compétitivité. Alors, dans la politique de Macron, il y a un élément positif qui date d'ailleurs de Hollande, c'est-à-dire il faut augmenter la quantité de travail. Et la France, en quantité de travail, la France travaille moins que les autres. Pour augmenter la quantité de travail, il a un peu réussi, le chômage a baissé pour la première fois en France, il y a eu une baisse du chômage. Il faut continuer dans ce sens. Le problème est que nous avons parallèlement un énorme accroissement de la dépense publique, donc un déficit très élevé et un taux de fiscalité très élevé si on se compare aux autres pays européens. Et ça vient pas de l'État proprement dit. Ça vient en partie des collectivités locales et ça vient énormément de l'ensemble des transferts sociaux qui sont, notamment concernant les retraites, qui sont dans le système français. Et donc, il y a une remise en ordre. Il est bien orienté, mais il est dans une situation difficile. Et c'est pas difficile. Ou bien nous sortons de cette situation, ou bien nous nous trouverons dans la situation de la Grèce par rapport au reste de l'Europe. Parce que nous sommes dans une plus mauvaise situation que l'Italie. L'Italie exporte, alors que nous avons un déficit commercial qui correspond au déficit commercial de 47-48. C'est-à-dire quand la France était exsangue. Et on n'exporte pas à l'intérieur de la zone européenne parce que nos produits sont moins compétitifs et parce que nous avons des coûts sociaux trop élevés.
C'est un mal français qui avait été corrigé, faut-il le rappeler, par Pierre Bérégovoy et ses successeurs, et la droite qui avait succédé aussi à la gauche et qui avait fait que le commerce extérieur français était redevenu positif. C'était l'époque où un certain Dominique Strauss-Kahn était ministre des Finances.
Dominique Strauss-Kahn a fait les 35 heures, sans y croire.
Oui, mais en même temps, les résultats étaient là. Bruno Cotrès, comment regardez-vous l'évolution de ce paysage? Pour le moment, on voit bien que, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une sorte de bloc central, alors central n'est pas le mot approprié d'ailleurs, qui est l'ERN, et tout le reste autour est dispersé. Alors qu'avant, il y avait un bloc central qui était Emmanuel Macron, et tout le reste autour était dispersé. Donc on comprenait bien le succès d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette situation-là, qui est favorable au RN, peut évoluer? Est-ce que les élections européennes peuvent être un moment de début de cette évolution, ou bien est-ce que la partie est déjà perdue? C'est difficile, on est quand même à 3 ans de l'échéance, mais néanmoins.
Ce qui est certain, c'est que dans ce nouveau paysage politique français, dans cette séquence a commencé effectivement en 2017, sans doute même avant, le Rassemblement National dispose aujourd'hui de très solides atouts. Il suffit de regarder la géographie électorale de Marine Le Pen en 2022. Elle sort en tête dans les deux tiers des communes françaises, ce qui est quand même gigantesque. Elle dispose de bastions sociologiques dans les catégories populaires, les femmes précaires en particulier. Donc voilà, il y a là un phénomène qui est très structurelle. Elle a éliminé la compétition à l'intérieur de son segment de l'électorat. Éric Zemmour a réussi 7% à la présidentielle. C'est pas mal, hein, quand on se présente pour la première fois à l'élection présidentielle, mais il n'a pas endigué fondamentalement la dynamique de Marine Le Pen. Et effectivement, ces élections européennes pourraient être le signal d'un certain nombre d'éléments importants dans la perspective de 2027. Je pense par exemple à la situation à gauche. si jamais la liste conduite par Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti Socialiste et sa formation Place Publique, arrivait en numéro 3, effectivement, peut-être pas loin du numéro 2, voire éventuellement très très proche de la place de numéro 2 de la liste Renaissance, ça crée sans aucun doute une nouvelle situation à gauche. Dans la perspective de 2027, il serait peut-être moins facile à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon de clamer qu'il est le leader de la gauche aujourd'hui. À droite, au centre-droit...
Oui, ça pourrait signer le retour d'une gauche de gouvernement.
D'une gauche de gouvernement. Très clairement, une partie du Parti Socialiste est dans cette attente d'avoir un signal positif pour, on va dire, défaire l'étau que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise a mis sur cette partie de la gauche. Aujourd'hui, à droite, situation plus compliquée. Je pense que la situation de la droite ne se dénouera que lorsque nous saurons exactement ce qui se passe au centre droit pour l'élection présidentielle. Y aura-t-il une sorte de candidature unique entre un candidat de centre droit issu de la Macronie, profil Édouard Philippe, Bruno Le Maire, ou une alliance avec un candidat donc de centre droit issu de la Macronie et le centre droit des Républicains, où vont-ils chacun aller sous leur couleur à l'élection présidentielle, sachant que plus il y aura de candidats à l'élection présidentielle, plus la qualification de Marine Le Pen au deuxième tour devient probable, voire la qualification d'un autre candidat issu de l'extrémité du spectre politique. Je pense à Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Claude.
Oui, effectivement, il y a le duel à gauche aujourd'hui, c'est Glucksmann-Mélenchon. Si Glucksmann obtient un score important, nettement avant les Insoumis, c'est très positif pour lui. Est-ce que ça provoquera la renonciation de Mélenchon ? Là, nous sommes dans le problème d'un individu. C'est un peu le même problème que Trump, Mélenchon, c'est-à-dire une forte personnalité, un talent démagogique, c'est-à-dire on parle aux passions plutôt qu'à la raison. Et donc, à ce moment-là, s'il est en tête à gauche, il y a plus de place pour la gauche modérée. Et à droite, le problème, au centre et à droite, le problème est de trouver un seul candidat, parce qu'il n'y a, qu'une seule place. Je ne vois pas aujourd'hui ce qui empêchera Marine Le Pen d'être au deuxième tour. Donc, au deuxième tour, il n'y a que deux places. Et donc, si Marine Le Pen est au deuxième tour, ou bien c'est la gauche modérée qui a réussi à s'imposer et à laquelle une partie du centre-droit se rallie. Le problème du Parti Socialiste, c'est qu'il a refusé historiquement l'alliance centriste. Parce qu'il était, il s'est laissé gagner sur sa gauche. Donc, ou bien il y a une candidature de gauche modérée, ou bien le centre et le centre-droit trouvent un candidat qui sera obligé d'emprunter une partie du programme de Marine Le Pen, c'est-à-dire de se définir sur l'immigration. S'il a pas... Aujourd'hui, le candidat qui apparaît comme le candidat favorable à l'immigration est battu. C'est pas difficile, donc...
On a un peu le sentiment, avant de terminer, Bruno Cotteresse, que les LR, les Républicains, sont en train de vivre ce que le PS a vécu. Le PS a vécu cette espèce de suicide et de fait que le PS était devenu presque une courroie de transmission du trotskisme, ce qui historiquement était quand même assez hallucinant, quand on pense au legs de François Mitterrand notamment. Et est-ce là, on a l'impression que les LR sont en train de devenir ou peuvent devenir une courroie de transmission du RN, c'est-à-dire de non seulement d'être vaincu par leur ennemi historique, qui est l'extrême droite, mais en fait d'y être vécu de façon consentante. Donc, est-ce que je me trompe, Bruno?
Non, pas du tout. Il va être très difficile aux Républicains d'expliquer clairement ce qui, sur les questions, les grandes questions régaliennes, étonnamment, notamment l'immigration, les différencie fortement du Rassemblement national. Qu'est-ce que serait une politique migratoire de fermeté que le LR veut incarner, mais qui ne serait pas le décalque du Rassemblement national? D'où, effectivement, le réinvestissement fort des Républicains sur la question économique, l'autre grande dimension de la vie politique, et d'essayer de sauver leur identité politique sur le retour à leurs fondamentaux économiques, c'est-à-dire la question des déficits, la question des dépenses, la question des impôts, peut-être la question du périmètre de l'État, qui est un problème, à mon avis, une question qui va fortement émerger dans les années à venir. Le périmètre de l'action de l'État par rapport aux collectivités locales, et beaucoup de candidats potentiels des Républicains sont en train de se positionner sur ces questions, souhaiteraient une sorte de grande recomposition du périmètre de l'action de l'État, en disant il faut que l'État arrête de faire tout et de faire mal. C'est le vocabulaire qu'ils utilisent. Donc moi, je m'attends à voir des Républicains qui réinvestissent fortement ça, qui vont essayer de créer une au minimum une coalition d'intérêts, voire une coalition tout court, avec un candidat issu de la Macronie centriste qui dirait à peu près la même chose sur l'économie.
Voilà ce qu'on pouvait évoquer aujourd'hui. On en reparlera bien sûr puisqu'on va s'approcher des élections européennes. Merci en tout cas Bruno Cotterêts d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chercheur au CEVIPOF et que vous enseignez à Sciences Po. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Nous vous souhaitons un très bon week-end de Pâques. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.